L'invité du Tropique Midi.
Yolande Adjibi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous avez assisté récemment aux 3e journée de la drépanocytose à la Martinique.
Tout à fait.
Vous avez écrit que c'était un événement majeur. Alors, pourquoi il constitue un événement majeur pour la communauté scientifique, pour les équipes médicales et peut-être pour les patients?
Alors en fait, au mois de février dernier, j'ai eu l'opportunité d'être invitée aux 3e journée de la drépanocytose en Martinique en tant que représentante des associations. Voilà, donc en fait cet événement réunissait bon nombre d'acteurs, on va dire, de la drépanocytose, on va dire les équipes qui soignent et qui font également de la recherche. Et c'était un lieu inédit, en fait, on va dire, où ces acteurs se sont retrouvés et ont pu échanger sur les thématiques de recherche, de prise en charge des soins, mais également le vécu des patients et de leurs familles.
Voilà. Il y a eu des avancées scientifiques significatives à ce moment-là?
Alors en fait, ce qui est important dans la drépanocytose, qui est une maladie, même si c'est la première maladie génétique au monde, c'est quand même une maladie rare. Et en fait, ce qui est important dans ce cadre d'événements, c'est de, on va dire, colliger, on va dire, l'ensemble des connaissances qui sont disponibles à un moment donné sur la maladie pour améliorer, on va dire, la prise en charge. Donc en fait, il y a eu des présentations qui ont fait état d'études qui sur la drépanocytose, aussi bien sur le plan de la recherche clinique, les traitements, les médicaments, que l'avancée en termes de soins, de prise en charge.
Alors, avancée scientifique, mais aussi peut-être avancée sociale, non ?
Voilà, avancée sociale aussi. Donc en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la Martinique, il y avait bon nombre de pays qui étaient représentés avec des configurations tout différentes. C'est-à-dire qu'on a les pays d'Europe, donc la France, on a également la région Martinique, Antilles, qui étaient représentés avec des moyens assez conséquents, on va dire, pour la prise en charge et la recherche dans la drépanocytose. Et ensuite, il y avait des représentants des pays africains qui étaient là, qui également nous ont fait part de la manière dont ils pouvaient prendre en charge la drépanocytose dans un contexte de pays en développement. Donc en fait, les avancées et les modes de prise en charge qui ont été présentés étaient différents par rapport à ces contextes-là. Mais on voyait bien que toute cette communauté est en effervescence et se mobilise pour améliorer la prise en charge de la drépanocytose et faire que cette maladie qui, il y a 20 ans, 30 ans, on disait qu'elle était mortelle et que les gens ne dépassaient pas une espérance de vie au-delà de 20 ans, pour faire mentir ces statistiques et essayer de donner une vie la plus normale soit-elle aux personnes atteintes de ces maladies.
Justement, les malades peuvent aspirer aujourd'hui à une meilleure qualité de vie avec une espérance de vie, comme vous venez de le dire, qui est aussi considérablement augmentée.
Oui, tout à fait. Ben justement, de par ces avancées, donc de par déjà le dépistage néonatal et la prise en charge très précoce, on va dire, des malades, on arrive à éviter la survenue de certaines complications et à mieux prendre en charge ces complications, ce qui permet de faire que la maladie a un retentissement, on va dire, moins dramatique sur l'espérance de vie.
Si je vous entends bien, la prise en charge serait de plus en plus de qualité.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une meilleure connaissance de la maladie, des complications. On a des technologies également nouvelles qui permettent, on va dire, de mieux cibler, on va dire, les traitements, de mieux cibler les personnes à risque d'avoir un AVC et d'agir justement en ce sens pour éviter la survenue de ces complications qui entraîne le décès, et notamment également au niveau des pays en développement. Même si le pays, on va dire le dépistage néonatal n'est pas systématique dans ces pays, faute de moyens et puis également lié au contexte social, il y a quand même des solutions pour, on va dire, donner les meilleures chances à ces patients.
Dites-moi, qui dit avancée scientifique dit aussi peut-être dernier traitement de pointe. Quels sont-ils ?
Alors actuellement, les derniers traitements de pointe dont peuvent bénéficier les patients, donc il y a déjà les traitements médicamenteux. Il y a un traitement qui est connu depuis près de 30 ans qui s'appelle l'hydroxycarbamide, qui est un traitement qui permet d'augmenter le taux d'hémoglobine des patients qui ont une drépanocytose sévère avec beaucoup de crises, une forte anémie, des complications graves. Donc ce traitement permet de réduire le nombre de crises et d'augmenter le taux d'hémoglobine qui fait que voilà les drépanocytes seront moins fatigués. Maintenant, ce traitement, il est prescrit uniquement par les médecins qui sont spécialisés à la drépanocytose et il est assorti d'un suivi très strict, étant donné les effets secondaires qu'il entraîne. Mais c'est une avancée majeure, on va dire, pour bon nombre de malades. Ensuite, il y a la greffe de moelle osseuse, en fait, qui est une technique qui est connue depuis des années, mais qui s'adressait jusqu'à maintenant aux personnes qui ont des donneurs dans la famille compatibles, c'est-à-dire un frère, une sœur, un parent. Qui sont compatibles peuvent donner leur moelle osseuse. Et là, à ce moment-là, c'est un traitement qui permettait, on va dire, de guérir de la drépanocytose, puisqu'on changeait totalement le système qui produit les globules rouges et qui fait que, l'individu n'a plus de traces d'hémoglobine S. Voilà. Après, c'est un traitement très lourd, qui n'est pas sans risque et qui se pratique essentiellement dans les pays d'Europe et aux États-Unis. Et la dernière avancée vers laquelle les chercheurs tendent, c'est la thérapie génique. Donc dans une maladie qui est parente de la drépanocytose, qui est la thalassémie, on a un cas de succès de thérapie génique chez un jeune patient atteint de thalassémie. Mais bon, c'est un traitement encore expérimental et qui est marginal et qui est un traitement encore assez compliqué. Après, la greffe de moelle osseuse, je tenais à préciser, ça s'adressait jusqu'à maintenant essentiellement aux enfants et aux adolescents. Maintenant, depuis peu, on voit que certains adultes, sous certaines conditions, peuvent bénéficier également de ce traitement.
Donc on voit que l'état d'avancement de la recherche et des soins est véritablement en marche. On en a une belle vision aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé du général au particulier dans cette affaire ?
Tout à fait. C'est ce que je disais dans mon communiqué. C'est-à-dire que on tend vraiment vers... avant, la drépanocytose était vue comme une maladie, qu'on soit porteur de l'hémoglobine S, qu'on soit porteur de l'hémoglobine C, qu'on soit porteur de l'hémoglobine S-bêta-tal, on avait une drépanocytose. Donc il y avait un amalgame qui était fait pour soigner ces patients. On soignait les malades de la même manière en fonction des symptômes. Maintenant, on tend à différencier, on va dire, les malades porteurs d'hémoglobine S et les malades porteurs d'hémoglobine C. Et ensuite, on tend également à identifier des sous-groupes de malades qui ont telle ou telle particularité qui va faire qu'ils vont mieux répondre à tel ou tel traitement, chez qui, par exemple, la greffe de moelle osseuse aura plus de succès de réussir, qui auront également une meilleure réponse avec le traitement médicamenteux que je vous ai cité un peu plus tôt, etc. Et ensuite, on fait également ce qu'on appelle de la médecine personnalisée, c'est-à-dire que en fonction vraiment du phénotype, du génotype des malades, on adapte voilà la prise en charge.
Oui. Donc tout ceci, bien sûr, fait l'objet d'un dialogue avec le corps médical ou son médecin traitant.
Voilà, tout à fait.
Oui. Dites-moi, j'ai cru comprendre que c'était une première, parce que pour la première fois, on avait vraiment entendu, vous le disiez vous-même, la voix des malades et de leur famille.
Effectivement, d'habitude, en fait, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu associatif, et c'est vrai que dans les conférences médicales, c'est souvent très scientifique, et on entend peu la voix des malades. Et c'est vrai que...
C'est important d'avoir ces témoignages?
C'est important parce qu'en fait, à la fois je pense pour les professionnels de santé, mais également pour les malades. Les professionnels de santé voient le résultat de leurs efforts et appréhendent mieux le vécu des malades en ayant cette voix qui se fait entendre. Et les malades arrivent mieux à s'identifier et à mieux comprendre, parce que c'est vrai que c'est un jargon médical qui n'est pas accessible à tous. Et quand les malades arrivent à verbaliser et expliquer leur ressenti, ça fait partie également de l'avancée de la prise en charge de la drépanocytose. Ensuite, la drépanocytose, faut pas oublier que c'est une maladie qui est assez stigmatisée. C'est une maladie qui touche essentiellement les populations noires, d'origine africaine, d'origine antillaise, du bassin méditerranéen. Également, bon, avec les métissages qui touchent maintenant une population un peu plus générale, mais qui est quand même stigmatisante. Et c'est vrai que la communauté des malades ayant la drépanocytose, c'est pas une communauté qui est habituée à faire entendre sa voix et à parler. C'est vrai que la drépanocytose, elle est souvent vécue comme une maladie, on ne sait pas pourquoi, mais une maladie un petit peu honteuse, une maladie qui touche vraiment au cœur de la famille, puisque c'est une maladie génétique transmise par les parents, et dont on a du mal à, en tant que malade et parents de malades, à parler. Et c'est vrai que là, lors du congrès de la Martinique, on a eu vraiment une demi-journée dédiée aux associations, donc avec une entrée en matière avec des professionnels paramédicaux, psychologues, aides-soignants, infirmières qui ont l'habitude, on va dire, d'avoir le contact proche avec les malades et qui nous ont fait part du vécu, voilà, de certains malades avec des complications telles que les ulcères de jambes, etc. Et l'après-midi, on a eu des témoignages de malades, de familles qui étaient très poignants et qui ne pouvaient laisser personne de marbre. Il faut vraiment recadrer, on va dire, tout ce qui est scientifique et avancée thérapeutique sur la personne et sur le premier destinataire qui est le malade.
Oui, tout ceci est porteur d'espoir en tout cas.
Voilà.
Merci Yolanda Djibi d'avoir été avec nous.